Désolé de vous interrompre. On va commencer notre programme pour ce soir. Je suis heureux de voir chacun d'entre vous ce soir. Je sais, c'est difficile, hein, s'il fait beau. 24 mai, le beau soleil. On l'a entendu, le soleil, cette année, n'est-ce pas? Fait quand il sort comme ça, là, on veut tellement en profiter. Je suis content de voir chacun d'entre vous, puis je suis particulièrement content de voir Monsieur Randy Johnson qui est avec nous. Il a fait la route de Sherbrooke aujourd'hui. C'est plusieurs heures de route et il va s'en retourner ce soir même. Je suis vraiment reconnaissant qu'il a pu venir pour nous raconter son histoire, puis vraiment nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis c'est une histoire incroyable. Je ne sais pas si vous avez reçu ou mis la main dans les dernières semaines sur une invitation qu'on avait de Monsieur Johnson, mais l'endo de l'invitation, ça disait « Randy a commencé très jeune à expérimenter la drogue, le vol à l'étalage pour finalement passer au vol à main armée et finir complice dans un meurtre. À l'âge de 15 ans, il a été impliqué dans une gang où il a été gravement blessé par balle. Il a dû être hospitalisé pendant un an. Refusant d'apprendre de ses erreurs, son cheminement l'a amené à être incarcéré dans la prison à plus haute sécurité au Canada et c'est durant ce long séjour derrière les barreaux que Randy a découvert la liberté à travers la foi. Et c'est le thème de la conférence ce soir, libre de toute chaîne, comment la foi en Jésus-Christ peut nous libérer justement de tous les esclavages, de toutes les choses qui nous tiennent captifs dans notre vie. Puis sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Johnson à venir ce soir nous partager son témoignage.
Bonne soirée tout le monde, ça va bien? Oui, c'est vrai, j'ai fait 4 heures de route et je vais faire une autre 4 heures pour retourner chez nous ce soir. Mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres ce soir. Pour commencer, j'avoue que je suis un anglophone. Donc, si je massacre la langue française un peu ce soir, pardonne-moi pour ça, all right? Je pense que ça va bien aller, je suis un gars de Montréal, donc j'ai appris le français en grandissant, mais je pense que ça va bien aller. On n'est pas nombreux ce soir, mais la Bible dit « lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là parmi eux ». Donc, même si on peut compter peut-être avec nos mains combien de personnes sont ici, il y en a une de plus. Et selon la Bible, c'est le Seigneur lui-même. Donc, on est choyé, on est béni que le Seigneur est ici ce soir. C'est sûr que c'est un conférence-témoignage. C'est-à-dire, moi, je vais partager avec vous certaines expériences que j'ai vécues dans la vie. Et je vais partager mon témoignage. Par contre, moi, chaque fois que j'ai le privilège, que ce soit dans des écoles ou dans des églises pour partager mon témoignage, je dis toujours ceci. Moi, je souhaite avec tout mon cœur qu'à la fin de la conférence, c'est pas nécessairement une histoire que vous allez t'en souvenir, mais plutôt certains principes que nous allons garder ensemble dans la parole de Dieu. Et même si c'est un témoignage, c'est quand même structuré et on va quand même regarder certains principes bibliques ce soir. Donc, pour commencer, j'aimerais partager avec vous certains passages bibliques. Premièrement, dans l'Ancien Testament, c'est écrit ceci. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Combien ici sait que la vie, des fois, c'est pas évident? Si des fois, la vie, c'est comme un combat, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose d'un peu semblable. Il a dit ceci. Il a dit, « Moi, je frappe, non pas comme battant l'air. » Autrement dit, l'apôtre Paul disait, « Moi, j'ai appris comment donner des coups calculés à l'ennemi de mon âme. » Et ce soir, je vais essayer, en tout cas, de partager certains principes que moi j'ai appris d'une façon très difficile dans la vie, des principes bibliques qui m'aident aujourd'hui de vraiment gagner ce combat qui est la vie. Parce que la vie, des fois, c'est pas évident, n'est-ce pas? Je sais pas à quel point que vous êtes au courant d'où ce que je viens. Je sais qu'Alex a lire un peu de mon vécu. Mais moi, je suis un gars de Montréal, je viens d'une grande famille, et nous autres, chez nous, on est 7 enfants. Moi, j'ai 3 frères qui sont plus vieux que moi, j'ai 3 sœurs qui sont plus jeunes que moi, donc je suis en plein milieu, moi. Et moi, ce soir, je vais partager, je dirais peut-être 7 principes bibliques. Et j'espère qu'à la fin, que tout le monde qui est ici ce soir va être ouvert au moins de peut-être prendre une période de réflexion. Parce que je vais quand même parler de 7 principes différents qui peuvent vraiment nous aider. Et le premier principe de laquelle je vais parler, c'est à propos de la rébellion. Et combien ici sait qu'il y a des rebelles dans la vie des fois, hein? Des rebelles, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes. Et il y a différents niveaux de rébellion. Que des fois, moi je suis un intervenant dans une école secondaire. Je travaille dans une école secondaire et il y a beaucoup de rebelles. Ici au Québec, on a le taux de décrochage le plus haut parmi tout le Canada. Donc, il y a beaucoup de rébellion qui se fait contre le système scolaire. Mais il y a aussi beaucoup de rébellion qui se fait contre les parents, contre la loi. Et un de les principes que moi j'ai appris dans la vie à propos de la rébellion, c'est ceci. C'est que dans la vie, il y a toujours un prix attaché à la rébellion. Toujours. Ce soir, vous allez entendre une histoire à propos de la rébellion extrême. Et j'espère, quand on va être fini, que tout le monde ici va pouvoir dire avec certitude, avec confiance, que tu paierais jamais le prix que moi a fallu que je me paye avant que je me réveille un peu dans la vie. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que dans la vie, il y a différents niveaux de rébellion, différentes formes de rébellion, et peu importe le niveau, la forme, il y a toujours un prix attaché à ça. Et peu importe la forme, normalement, toute la rébellion dans la vie, c'est lié à la rébellion contre Dieu. Et moi, j'ai appris que dans la vie, il y a vraiment deux chemins. Soit on marche avec Dieu, ou soit on marche sans sens contraire à Dieu. Et quand on marche sens contraire à Dieu, on marche sur le chemin de la rébellion, et quand on marche sur le chemin de la rébellion, il y a toujours un prix attaché à ça. Comme j'ai mentionné, je viens d'une grande famille, 7 enfants. Mes 3 frères, à un âge très jeune, ils ont décidé d'être rebelles. Des jeunes en fugue, ils vivaient sur les rues de Montréal. Et des fois, quand mes parents n'étaient pas à la maison, il y avait un de mes frères en particulier qui retournait à la maison pour rendre visite à moi et mes sœurs. Et chaque fois qu'il venait, il m'encourageait. Il me disait tout le temps, « Oui, Randy, qu'est-ce que t'attends? Viens nous joindre. Ça va être les 4 frères ensemble, ça va être trippant, ça va être le fun. » Et je m'en souviens comment à cette époque-là, en écoutant les histoires de mon frère, je m'en souviens à quel point que moi j'étais jaloux de mes frères. Jaloux pourquoi? Parce que à cette époque-là, je le voyais comme libre. Je pensais que c'était ça la liberté. Aucune règle à suivre. Ensemble, eux autres, ils faisaient qu'est-ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Et tellement que j'étais jaloux de mes frères et de qu'est-ce que je pensais, c'était la liberté de mes frères, qu'à l'âge de 13 ans, j'ai suivi les pas de mes frères. Jeune en fugue, je me suis joint à mes frères et je me suis devenu le plus jeune membre de cette gang criminelle-là. Et mes frères étaient déjà associés avec un gang criminel, puis c'était une gang criminelle qui avait un caractère un peu pas mal violent. Et je suis devenu le plus jeune membre de cette gang criminelle-là. Et là, j'ai vite appris, après avoir quitté la foyer familial, à quel point que ça, ce principe-là est réel et à quel point que le prix pour la rébellion peut être très élevé des fois. À un moment donné, j'étais avec 2 de mes frères, un autre membre de notre gang, et cette journée-là, on passait la journée à la ronde. À cette soirée-là, il y avait un concert musical pour des jeunes. Et en s'en allant vers le concert, le gars qui était avec nous, l'autre membre de notre gang, il y avait 2 autres gars qui marchaient un peu avant nous autres, puis ces 2 gars-là, ils avaient chacun un manteau de cuir sur le dos. À l'époque, c'était la mode. Et quand il a vu les gars, il a dit, « Hey, ils sont cool ces manteaux-là, j'en veux un. » Et là, il a tourné à moi, puis il a dit, « Randy, j'en veux un de ces manteaux-là. Garde-toi. Va en avant. Va commencer un bataille avec ces gars-là, et au courant de la bataille, on va venir t'aider, puis on va enlever leur manteau. » Je m'en souviens comment, à cette époque-là, comment des fois je faisais des choses vraiment stupides, juste pour prouver à mes frères les plus vieux dans le gang que même si j'étais la plus jeune, la plus petite, j'avais quand même ma place parmi eux. Et cette soirée-là, ça en était une de ces fois-là. Et j'étais en avant pour commencer qu'est-ce que moi, je pensais être pour être juste un simple bataille. Qu'est-ce que j'ai pas réalisé était pour arriver, est arrivé. Au courant de cette bataille-là, le gars qui était avec nous, l'autre membre de notre gang, il a sorti un poignard. Et il a poignardé les 2 gars, en tué un sur le coup, et l'autre a passé très proche de la mort. La rébellion a toujours un prix, et des fois, c'est très, très coûteux. mes frères et moi, nous autres, on s'attendait pas à ça du tout. Tous les quatre, on a réussi à s'évader sans se faire arrêter, mais cette soirée-là, c'était partout nouvelle. Télévision, radio, il y avait un jeune de mort, un autre à l'hôpital, puis là, il cherchait les coupables. À cette époque-là, je vivais avec plusieurs membres de la gang dans une maison à Montréal. Et parce que j'étais le plus jeune de la gang, c'est souvent que c'est moi qui ai fait les commissions pour les gars. Et le lendemain matin, il y a un gars dans la maison qui a dit à Randy, « Va au dépanneur du coin, puis va aller acheter le journal. On veut voir si l'histoire est dans le journal. » Et je m'en souviens comment j'ai rentré dans cette dépanneur-là. Et en rentrant, même avant que je l'ai pris pour l'acheter, je la voyais à première page du journal de Montréal. Il y avait un gros photo du jeune homme qui a perdu la vie à cause de nous. Et je pense que j'oublierai jamais à quel point ça m'avait frappé à ce moment-là, à quel point je me sentais mal en dedans de moi. Un autre principe biblique que j'ai appris d'une façon très difficile, c'est l'importance de la voix de la conscience. En voyant la photo, je me sentais mal. C'était quoi ça? C'était ma conscience qui me parlait. Même la veille, quand il a dit, Randy, va commencer un bateau avec eux. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui savait, c'était pas correct. C'était quoi? La voix de la conscience. La voix de la conscience est un outil précieux que Dieu donne à chaque personne afin de nous aider, afin que Dieu puisse nous diriger dans la vie. Et souvent, ceux qui sont toujours en trouble, ceux qui sont toujours dans le malheur, ceux qui sont toujours en train de faire de tort, soit eux-mêmes ou à d'autres personnes, c'est des personnes qui ignorent leur propre conscience. Moi, tout au long de ma jeunesse, j'ai ignoré ma propre conscience et j'ai vraiment payé pour. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être à l'écoute de cette voix intérieure-là parce que c'est un outil que Dieu nous a donné afin de nous aider dans la vie. Et depuis plusieurs années maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent, « Randy, j'aimerais ça entendre la voix de Dieu. » Mais souvent, Dieu nous parle en travers de la voix de la conscience. Vous savez, hein, à un moment donné dans la Bible, il y a un vieux monsieur, l'apôtre Paul. Sa vie tirait à la fin. Donc, lui a décidé d'écrire une lettre à un jeune homme pour essayer d'encourager ce jeune homme-là pour bien réussir dans la vie. Et je pense que l'apôtre Paul, lui, il était vraiment sportif parce que souvent, il faisait référence à des sports pour souligner des vérités de la vie. Et à un moment donné, il a écrit une lettre à un jeune homme qui s'appelait Timothée. Et ce lettre-là fait partie de notre Bible aujourd'hui. Puis dans ce lettre-là, il a dit ceci à Timothée. Il a dit, « Timothée, je veux tellement que tu combattes le bon combat. Et voici comment le faire. C'est en gardant la foi et une bonne conscience. » La voix de la conscience est un outil précieux que Dieu nous donne afin de nous aider à éviter certaines souffrances, certaines erreurs, certaines gaffes qui peuvent vraiment coûter cher dans la vie. Et parce que moi, j'ai ignoré ma propre conscience tout au long de ma jeunesse, j'ai vraiment payé pour. À cette époque-là, la gang avec qui moi je faisais partie, on était en guerre contre une autre gang criminelle. Et c'était un garde de gang qui était parfois pas mal violent. Et à un moment donné, on était réunis, je dirais, peut-être une douzaine de membres de notre gang dans une ruelle. Puis là, on faisait nos plans comme en cette soirée-là, c'était pour être une nuit de violence. On se préparait pour aller attaquer l'autre gang. On avait même fabriqué certaines bombes à gasoline. On était pour mettre le feu sur certains logements où restaient les autres gars. Et juste avant que nous, on était pour quitter, il faisait déjà noir dehors. Mais là, soudainement, dans la ruelle, il y a un de mes frères, lui, qui a lâché un cri. Il a dit, « Les gars, faites attention, il y a un char qui vient d'arrêter au bout de la ruelle, puis il a fermé ses lumières. » Et quand mon frère a dit cela, c'est comme tout le monde s'est mis à bouger. Il y en a qui ont caché en l'air des voitures. Il y a un de mes frères, lui, qui est parti tout de suite en courant pour aller chercher un carabine que lui avait caché en l'air d'une clôture. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas réagi. Et la prochaine chose que j'ai su, moi, j'ai entendu un gros « boum ». Et là, j'étais à terre. Et j'avais un méchant douleur qui en arrêt de ma jambe droite et je me suis ramassé un main plein de sang. À l'autre gang, cette soirée-là, ils m'ont tiré avec un fusil de calibre 12 qui a totalement détruit l'intérieur de ma jambe droite. Mon frère, lui, a tiré sur l'auto un couple de fois pendant que l'auto a quitté en vitesse. Et c'était vraiment fou, cette soirée-là. La rébellion a toujours un prix. Et des fois, c'est très, très élevé. L'ambulance est venue, ils m'ont amené à l'urgence à l'hôpital pour les enfants à Montréal. Et là, ça m'a pris au-dessus d'un an, même avant que je pouvais commencer à apprendre à marcher encore tellement que le dommage était sévère. Et quand ils m'ont donné congé de l'hôpital, mes parents, il a fallu qu'ils me ramènent à la foyer familial parce que je pouvais pas marcher, je passais mes jours au lit. Et c'était durant cette période-là chez mes parents, excusez, qu'un soir j'étais au lit, mes parents étaient en train de regarder la télévision et quelqu'un est venu cogner à la porte. Et mon père est descendu, il a ouvert la porte et là il y avait deux policiers de la squadre des meurtres à Montréal. Et ils ont dit, on est ici pour arrêter votre fils Randy pour le meurtre qui s'est produit à la ronde il y avait déjà un an. Ils venaient de trouver les coupables pour l'affaire des deux gars et ils venaient tout juste aussi d'arrêter mes deux frères et l'autre membre de notre gang qui avait poignardé les deux gars. La suite de tout ça, il y a eu un procès. Et au bout de ce procès-là, moi j'ai vu un de mes propres frères sentencé à la vie en prison pour ça. L'autre membre de notre gang qui avait poignardé les gars, lui aussi a eu une sentence de vie. Mon autre frère qui était sur place, il était libéré parce qu'il n'était pas impliqué dans le bateau. Et moi, parce que j'étais le plus jeune de la gang, ils m'ont enfermé jusqu'à temps que j'avais mes 18 ans. Et savez-vous, je m'en souviens comment à cette époque-là, il y en avait du monde qui ont essayé de m'aider, qui ont essayé de me parler. Et je parle des psychologues, des intervenants, même des amis de la parenté. Et ensemble, tout le monde me disait la même chose. Hein. Ils disaient, Randy, man, t'es tellement un jeune chanceux, toi. Premièrement, tu es encore vivant après avoir fait tirer, ça aurait pu facilement te tuer. Et là, encore une fois, tu t'échappes de justice, ce fois-là, d'une sentence de vie en prison comme ton frère, juste parce que toi, tu n'as pas encore tes 18 ans. Et il me disait toute la même chose, Randy, penses-tu que peut-être c'est le temps là d'arrêter et de réfléchir et peut-être commencer à prendre des bonnes décisions dans ta vie? Si moi je veux être honnête ici ce soir, il faut que j'avoue quelque chose. À l'époque, je savais que ce monde-là avait raison. Je savais. Mais la vie, là, c'est quoi? C'est des choix. Hein? Et moi, tout au long de ma jeunesse, j'ai choisi non seulement d'ignorer ma propre conscience, mais toute l'aide qui m'a été offerte et tous les conseils qui m'ont été donnés. Et quand on fait de tels choix dans la vie, c'est garanti, on va continuer à marcher sur le chemin de la rébellion, puis on va continuer à payer le prix. C'est ça, c'est pour ça que c'est tellement important d'être ouvert à ce que Dieu envoie sur notre chemin, afin de nous donner certains conseils ou peut-être un mot ici et là pour essayer de nous diriger d'une certaine façon qui peut nous aider à éviter certaines gaffes, certaines erreurs, certaines souffrances. Mais moi, parce que j'étais tellement rebelle et tellement... J'avais tellement un cœur endurci. Moi, j'ai ignoré toute l'aide et tous les conseils qui m'ont été donnés et ma propre conscience. Et quand on fait de tels choix, on continue à payer le prix, c'est garanti. Il a fallu qu'il me libère quand j'avais mes 18 ans, mais ça n'a pas pris tant avant que j'étais de nouveau devant un juge, vol à main armée avec violence comme accusation. Et là, j'ai eu ma première sentence adulte, 8 mois dans la prison de Bordeaux à Montréal. Et quand ils m'ont enfermé dans cette prison-là, je me tenais avec les gars qui faisaient le plus de troubles dans toute la prison. Et tellement qu'on était devenus des cas problématiques pour les gardiens, qu'un soir après qu'ils ont embarré tous les détenus dans leur cellule pour la soirée, il y a une escouade de gardiens qui ont rentré dans le secteur. Et là, ils ont ouvert 11 cellules. Et un à la fois, ils ont saisi 11 détenus. Moi, j'étais un de ces 11 détenus-là. Puis, un par un, ils nous ont menottés. Puis, ils nous ont descendus dans le sous-sol de la prison. Et là, ils nous ont enfermés dans un secteur tout à fait spécial, complètement séparé de tous les autres détenus. Toutes les prisons ont des secteurs comme ça. Les détenus appellent ces secteurs-là le trou. Eux autres, ils appellent ça la ségrégation. Et ils nous ont enfermés dans ce secteur-là, puis ils nous ont dit qu'on n'était pas resté là minimum 3 mois. Et dépendamment de notre comportement, c'est à ça qu'il était pour déterminer si on pouvait regagner nos places en haut. 23 heures sur 24 heures à tous les jours, on était enfermés dans ces secteurs-là, dans ce secteur-là. Seulement 1 heure par jour, on avait le droit de sortir. Quand ils nous ont enfermés dans ce secteur-là, je m'en souviens à quel point que nous, les 11 gars, on était enragés contre l'administration. Et je m'en souviens aussi comment on disait entre nous, que c'est à leur faute. C'est à leur faute qu'on était rendu là, qu'on ne méritait pas un tel traitement, c'est à leur faute. Et ça, c'est souvent le cas. Je ne sais pas si vous avez constaté ça dans la vie, mais souvent, souvent, ceux qui sont toujours dans le trouble, ceux qui sont toujours rebelles, quand ils sont dans le trouble, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire plutôt? Ils cherchent à blâmer les autres. Ils cherchent à se justifier. Et c'est à nous, ça. C'était jamais ma faute. C'était à moi, ça, dans ma jeunesse. C'était jamais ma faute. Et tellement qu'on est en colère, tellement qu'on est enragé contre l'administration, qu'on a commencé une émeute dans ce secteur-là. 11 secondes. On pouvait pas sortir de nos cellules. Il y avait comme des gros barreaux de fer, là, sur nos portes. Mais chaque détenu dans sa cellule, on avait chacun un lavabo, un toilette. Tout le monde avait le droit de fumer, donc tout le monde avait des allumettes. Et tous les 11 secondes, en même temps, on a tout brisé nos lavabos, nos toilettes. Il y a un gros, inondation dans le sous-sol de la prison. Et là, chaque fois que les gardiens rentraient pour essayer de nous contrôler, on mettait n'importe quoi qui brûlait au feu, puis là, on garochait ça à travers les barreaux sur les gardiens. On était vraiment hors de contrôle et très, très, très violents. Les gardiens, eux, vous savez, hein, quelqu'un a déjà dit ceci, la violence, c'est la réponse de gens ignorants. Les gardiens, eux, a fallu qu'ils trouvent une façon de reprendre contrôle. Et la façon qu'ils l'ont fait, ils ont rentré dans l'allée où il y avait toutes nos cellules avec un gros boyau de feu, comme les pompiers serrent. Et en se mettant devant chaque cellule et en ouvrant l'eau, la pression d'eau, c'était tellement puissant, ça nous blassait dans le fond de notre cellule. Puis là, ils nous pinaient avec la pression d'eau. Et ça, ça donnait l'opportunité à d'autres gardiens pour ouvrir nos portes, pour sauter sur nous. Et quand ils ont réussi à maîtriser les 11 gars, ils en ont sorti 2 en disant que c'était les leaders. Et moi, j'étais un de les 2. Ma punition, ils m'ont attaché les mains, les pieds à un lit pendant un couple de jours pendant que je me calme, tellement que j'étais enragé. La rébellion a toujours un prix. Je pense que ça va sans dire ce soir, mais moi, j'ai jamais pu remonter en haut avec les autres détenus. Ma première sentence adulte, je l'ai passée au complet dans le sous-sol de Bordeaux. La journée qu'ils m'ont libéré de cette prison-là, il y a un gardien qui m'a adressé la parole. Et quand je réfléchis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a dit, et surtout comment il me le dit, on dirait qu'il parlait avec beaucoup de conviction et beaucoup de certitude, comme il savait de quoi qu'il parlait. Je m'en allais vers la porte, c'était ma journée pour être libéré, j'étais super content, mais là, soudainement, j'entends mon nom, « Hey, Johnston! » Et je tourne de bord, puis là, il y avait un gardien qui me pointait le doigt. Puis il m'a dit ceci, « Johnston, moi, je ne suis pas inquiète. Toi, tu vas être de retour. » Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit à lui? Peut-être pas aussi poliment que je vais le répéter là. Mais moi, j'ai dit à lui qu'est-ce que chaque détenu dit la journée qu'il sort de la prison. Soit il pense en dedans de lui-même ou il va dire à quelqu'un. Moi, j'ai dit, no way, man. Plus jamais, moi, je retourne en dedans. Plus jamais. Mais la vérité en prison, c'est quoi? La vérité, même dans la vie, c'est quoi? C'est que tant et aussi longtemps qu'on continue à marcher sur la voie de la rébellion puis on refuse de mettre les breaks, et de jeter un bon regard dans le miroir et d'apprendre par nos erreurs. La vérité, c'est qu'on va répéter les mêmes erreurs, fois après fois après fois. Regarde un autre proverbe dans la Bible. Peut-être tu as même vu ça dans la vie. C'est écrit ceci, « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. » Avez-vous déjà vu ça? Un chien va vomir puis il va aller mettre son nez dedans après. Il y en a même des chiens qui vont manger hein, leur propre vomi. Mais garde la balance. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? Quand on sait en dedans de nous-mêmes qu'on est en train de faire du tort, soit à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, quand notre conscience nous témoigne puis on continue de faire pareil, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de servir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Ensemble, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas plus smart qu'un chien qui fait de quoi semblable. Je sais pas vous autres, mais moi, j'en ai vu des chiens faire ça. Hein. Chaque fois que j'ai vu un chien faire ça, ma pensée a toujours été la même. Man, quelle bête stupide. Mais encore là, si moi, je veux être honnête avec moi-même aujourd'hui, il faut que j'avoue que moi, durant ma jeunesse, je n'étais pas bien, bien plus intelligent, moi. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, je comprends. Honnêtement, je comprends pour comment ce gardien-là il a pu dire cela à moi avec tellement de conviction? Johnston, tu vas être de retour. C'est parce que ce monsieur-là, il a vu des centaines de gars comme moi avant. Lui, il savait, lève-là un gars qui veut rien savoir. Lève-là un gars qui n'est pas prêt à faire face à lui-même. Lève-là un gars qui n'est pas prêt à apprendre par ses erreurs. Donc, lève-là un gars qui va répéter ses erreurs. Et ça n'a pas pris de temps. Hein? Moi, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 25 ans, j'étais rarement sorti de la prison. Et peu de temps après, de nouveau devant un juge, et là, j'ai eu ma première sentence pénitentiaire, 3 ans comme sentence. Et là, ils m'ont envoyé dans un pénitencier de sécurité médium. Il y a comme différents niveaux de sécurité dans le système carcéral. Là. Et là, ils m'ont envoyé à une prison de sécurité médium à Laval. Et quand j'ai rentré dans cette pénitentiaire-là, j'étais vraiment étonné de voir à quel point qu'il y avait de la drogue là-dedans. La drogue abonde dans nos prisons. Les prisonniers, eux, ils font même leur propre alcool en dedans. Donc, il y avait toujours un moyen de se geler ou de se saouler en dedans. Et moi, je me tenais avec un groupe de gars, on avait toujours la drogue et souvent l'alcool. Et les gardiens en prison, ils sont pas stupides. Normalement, ils savent là qui sont les vendeurs et qui sont les gars qui sont le plus souvent sous l'influence. Donc, ça devient comme un peu un jeu, comment qu'on dit en français, chat et souris. Toi, tu essaies de cacher ça le mieux que tu peux. Eux autres, ils cherchent à te pogner avec ça. Et si jamais tu fais prendre avec la contrebande en prison, mais ta punition, ils te prenaient et ils te mettaient dans le trou. Des fois, tu restes là 10 jours, 15 jours, 30 jours même des fois. Et à un moment donné, un de mes amis, il s'est fait prendre avec la drogue dans sa cellule. Sentence 15 jours dans le trou. Lui, il a réussi à m'envoyer un message par un gars qui a sorti quand lui a rentré. Et le gars, il est venu me voir et il me dit, « Hey, Randy, Greg, ton chum vient de décrocher 15 jours puis il veut que tu lui envoies de la drogue pendant qu'il est là. » Quasiment impossible de le faire parce que normalement, ces secteurs-là, c'est complètement séparé. Mais ça donnait que dans cette pénitentiaire-là, les gars qui étaient dans le trou, il y avait des fenêtres dans leur cellule qui faisaient face dans la cour où les autres détenus faisaient leurs activités. Et quand on a sorti pour nos activités, je m'imagine, je me pensais plus smart que tous les gardiens. J'ai tenté de pousser la drogue par la fenêtre parce que pendant que lui était dans le trou, on a réussi à rentrer beaucoup de drogue. Et eux autres, ils m'ont pris sur le fait. Donc, ma punition était, là, j'étais pour être son voisin, pour un petit bout. Et même s'ils m'ont pris en dehors de sa fenêtre pour m'amener dans ce secteur-là, les gardiens, il a fallu qu'ils me prennent. Puis, il a fallu qu'ils traversent le gymnase avec moi pour m'amener dans ce secteur-là. Excusez. Et en traversant à la gymnase avec moi, ils ont bien vu là à quel point que j'étais parti sur la drogue. Mais moi, en traversant la gymnase avec eux, moi, j'ai vu qu'il y avait un bat de baseball à côté au mur. Et c'était des gardiens qui n'avaient pas d'armes sur eux autres. Donc, moi, j'ai pris le bat de baseball et j'ai viré contre les deux gardiens. Et eux autres, ils étaient coincés dans le coin de la gymnase. Ils ont essayé de me calmer. Moi, je le menaçais. S'ils s'approchaient de moi, j'étais pour m'en servir. Et les autres gardiens ont vu qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le gymnase, puis ils ont tout enfermé les autres détenus. Et là, ils ont fait un périmètre de sécurité en entour du gymnase, puis là, ils ont commencé à négocier avec moi. Et ils ont même envoyé un autre détenu, un de mes amis qui faisait partie de la communauté des détenus, pour essayer de me parler. Et ils ont dit à lui ensemble, ils ont dit, écoute, va dire à Johnston qu'il lâche la batte avant qu'on va être obligé de tirer sur lui. Et ils l'ont dit aussi, là, dis qu'on voit bien qu'il est parti sur la drogue. Dis, s'il laisse tomber ce batte-là sans toucher les gardiens, on va lui embarrer non dans le trou ce soir, mais dans sa propre cellule. Et demain, quand il va être plus à lui, on va en discuter. Moi, j'ai fait seulement une chose comme il faut cette journée-là. C'est que j'ai accepté l'offre et j'ai lâché la batte sans toucher les gardiens. Au moins, je n'étais pas un ignorant pour une fois dans ma jeunesse. Et eux autres, ils ont tenu parole. Ils m'ont saisi tout de suite, mais ils m'ont pas amené dans le trou. Ils m'ont conduit jusqu'à dans ma cellule. Puis là, ils m'ont embarré là pour le restant de la soirée. Mais ça, c'est la dernière chose à que je m'en souviens. Même aujourd'hui, le restant de cette soirée-là, pour moi, demeure un blackout total tellement que j'étais parti sur la drogue. Prochaine chose que j'ai su, je me suis réveillé le lendemain. J'étais pas dans ma cellule, j'étais dans le trou. J'avais des menottes aux mains, j'avais des chaînes aux pieds, puis j'étais rempli du sang sec. Et j'avais des gros pansements sur mes bras. Et j'ai appelé le gardien, j'ai dit, « Man, qu'est-ce qui est arrivé? » Il a dit, hier à soir dans ta salle, t'as pris un lampe de rasoir. Tu t'es tenté de te suicider. Vous savez, hein, la Bible nous dit ceci. Considérez attentivement vos voies. C'est important des fois de prendre des périodes de réflexion. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Quand on marche sans sens contraire de Dieu, des fois on devient un poids facile pour l'ennemi de notre âme. Et même si c'est moi qui avais la lampe de rasoir, là, je suis très, très au courant que cette soirée-là dans ma cellule, même si c'est moi qui avais la lampe, l'ennemi de mon âme était là en disant, « Oui, Randy, fais-le. Fais-le. » Comment est-ce que je sais ça? Parce que la Bible est claire. Hein? Le voleur ne vient que pour dérober, engager et détruire. Et je, si je suis vivant aujourd'hui, je suis aussi très au courant, c'est que par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur lui vient afin de nous donner la vie. Et de nous le donner la vie abondante même. Et je suis tellement reconnaissant parce que je sais si je suis encore vivant aujourd'hui, si j'ai raté mes deux tentatives de suicide durant ma jeunesse, c'est que par la grâce de Dieu. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais vivant, pour ça j'étais bien content. Mais j'étais aussi dans beaucoup de troubles à cause de l'affaire du bat de baseball. Et là, ils m'ont passé devant un tribunal intérieur, tous les hauts placés de cette pénitentiaire-là. Et ensemble, ils m'ont dit, écoute, jeune homme, toi, t'es trop dangereux pour être dans un pénitentiaire de sécurité médium, on te transfère dans un maximum. Et là, ils m'ont transféré dans une prison de sécurité maximum à Sainte-Anne-des-Plaines, qui avait comme nom Archambault. Et quand j'ai rentré dans cette pénitentiaire-là, je me suis vite devenu ami avec un monsieur qui était bien, bien connu dans le monde criminel à Montréal. Et ce monsieur-là, il faisait dizaines de pénitentiaires, moi, je faisais 300. Et lui, sa sentence, à lui, finissait 3 jours avant que ma sentence finissait. Et tellement qu'on était devenus des bons amis, que la journée que lui a eu sa libération, il est venu me saluer à ma cellule. Puis il a dit, Randy, je m'en vais, là, attention à toi. Et là, il m'a dit, écoute, Randy, tu sors dans 3 jours, toi. Viens me voir en sortant, je veux que tu travailles avec moi. Tu vas faire beaucoup d'argent. J'ai sorti, j'allais rencontrer ce monsieur-là dans un bar, dans un motel dans l'ouest de Montréal. Il me donnait un clé pour une chambre. Là. Il a dit, Randy, va dans telle chambre, là. Prends qu'est-ce que tu veux pour commencer. J'ai rentré dans la chambre et les tiroirs dans cette chambre-là, c'était rempli de la drogue. Et j'ai pris qu'est-ce que j'avais besoin des gros quantités de drogue et je suis devenu un vendeur de drogue sur la rive sud de Montréal. Mais à l'époque, j'avais un problème, un gros problème. J'avais plusieurs problèmes, mais j'avais un gros problème. J'étais autant drogué que j'étais vendeur de drogue. Et je sais pas si vous le savez, mais les drogués, c'est pas les meilleurs businessmen dans le monde. Hein? Ce gars-là, il me donnait de la drogue, j'étais censé de la vendre, la payer par la suite, puis après ça, il m'en donnait un autre. Puis à un moment donné, j'ai parti sur un genre de... En anglais, on appelle ça un power trip. Je me prenais pour quelqu'un dans mon coin. Au point qu'on faisait des parties, des fois, ça durait des jours de temps. Et j'étais rendu au point, durant les parties, au lieu de la vendre la drogue, j'étais rendu jouer au Big Shot, je donnais ça. Putain, tout le monde, drogue gratuit. À un moment donné, je me suis ramassé au point que j'avais plus de drogue, et là, j'avais pas assez d'argent pour payer ma dette envers un monsieur qui a fallu que tu payes tes dettes. Donc, j'ai pris une arme à feu, j'ai pris un ami, et là, j'étais faire mon premier vol de banque à Montréal. En rentrant dans la banque, l'idée était, va chercher l'argent, paye la dette. En sortant du banque, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, hein, comme un chien qui retourne. En sortant du banque, nous autres, on a dit, ah, pff, oublie ce gars-là, on n'a pas besoin de lui. On a de l'argent, on va aller acheter de la drogue ailleurs. Et là, ça a commencé pour moi une période de plusieurs mois que je me tenais avec un groupe de gars. On faisait ça comme job à Montréal, on faisait des vols de banque. À un moment donné, je me suis fait arrêter pour un vol de banque. 4 ans et demi de pénitencier. Et là, à cause de mon dossier passé dans les prisons, ils m'ont tout de suite enfermé dans une prison de sécurité maximum. Mais là, ils m'ont enfermé dans la prison que personne ne voulait aller à l'époque. Les détenus appelaient ce prison-là le Vieux Pen, Saint-Vincent-de-Paul. Tellement que c'était vieux, ils l'ont fermé il y a à peu près 20 quelques années maintenant. Ça existe encore à Laval, mais il n'y a pas de prisonniers là-dedans. Ils font des films là-dedans, cette heure. En rentrant dans cette prison-là, j'ai tout de suite fait qu'est-ce que tout le monde fait en rentrant dans les prisons. Je commence à checker, bon, qui est-tu là? Avec qui je vais me tenir? Parce que les gars en dedans, ça se tient en gang, surtout dans les maximums. Et quand il y a des problèmes, c'est normalement gang contre gang. Et là, j'ai vu un gars qui s'appelait Danny. Danny, c'était un gars que moi, j'avais connu quand j'étais dans des prisons pour des ados. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu, mais Danny, à l'époque, c'était un bon ami. Donc, je me suis dit, tiens, Danny est là, je vais me tenir avec Danny. Danny, lui, il se tenait déjà avec deux autres gars qui se trouvaient à être les partners de Danny dans The House, c'est-à-dire ils se sont fait arrêter tous les trois pour la même cause. Donc, c'était comme devenu notre gang. Chaque fois qu'on avait le droit de sortir, on était toujours nous quatre ensemble. Danny, lui, demeurait deux cellules à côté de moi. Les deux autres gars qui sont devenus mes amis, eux autres, ils demeuraient sur un autre rangée de cellules. Donc, je le voyais pas aussi souvent, je le parlais pas aussi souvent que je parlais à Danny. Puis, c'est vraiment Danny qui est devenu mon meilleur ami dans cette prison-là. Un an après que j'ai commencé ma sentence, un jour, mes nouveaux amis, les partners de Danny, sont venus me voir puis m'ont dit, « Randy, il faut qu'on te parle. » Et Danny, il faisait d'autres choses à ce moment-là, il n'était pas sur place. Et ils m'ont dit, écoute, Randy, on vient de découvrir que Danny nous a stoulés, c'est un délateur. Mon meilleur ami. Ils m'ont dit, Randy, c'est lui qui s'est fait arrêter en premier pour notre vol de banque, puis c'est lui qui a dit aux policiers qui étaient ses partenaires, et c'est pour ça qu'on s'est fait arrêter, nous deux. Et là, ils m'ont dit quelque chose qui m'a bouleversé. Ils m'ont dit, écoute, Randy, on t'aime bien, on te respecte beaucoup. On sait que Danny, c'est ton meilleur ami, c'est pour ça qu'on va te dire à toi et juste à toi. Mais on te met en garde, nous autres. On tue Danny, mon meilleur ami. La mentalité en prison, ça a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui, un délateur mérite de mourir. Mais là, on parlait de mon meilleur ami. Quand ils m'ont dit cela, c'est comme un batouet à éclater en dedans de moi. C'est comme la moitié de moi disant, « Randy, man, dis-y, c'est ton chum. » Mais c'est comme l'autre moitié disant, ah, man, ferme-la, tu sais comment ça marche ici. Pendant deux semaines, j'ai joué l'hypocrite avec mon meilleur ami. Ils m'ont pas dit quand, ils m'ont juste dit quand ça va arriver, ils m'ont dit, tu vas savoir pourquoi. Pendant deux semaines, la première pensée dans ma tête à tous les matins en me réveillant, c'était, est-ce qu'aujourd'hui c'est la journée qu'ils vont le faire? Chaque fois que j'étais sorti, on était toujours tous les quatre ensemble. Je checkais toujours en autour de moi pour voir s'il n'y en avait pas des gardiens proches. S'il y en avait des gardiens proches, j'étais correct. Là. Je savais qu'il n'était pas pour tenter de le faire. Mais quand il n'y en avait pas de gardien, c'est que mon cœur commençait à battre de fort en amont. Puis ça, je me disais, ça y est, c'est ici qu'ils vont le faire. Deux semaines comme ça. Deux semaines plus tard, je m'en venais de travailler. Tout le monde travaillait dans cette pénitentiaire-là. Et je m'en venais avec les autres gars de mon atelier, puis on montait les quelques marches pour rentrer. Le midi, tout le monde se faisait embarrer dans le sol pour dîner. Et je montais les quelques marches avec les autres gars de mon atelier, puis en montant les marches, j'entendais les cris. Et là, j'ai vu qu'il y avait des gardiens, ça courait tout partout. Puis un gardien qui est venu en courant avec ses clés a barré le grillage, puis ils nous ont dit, vous autres, va attendre dans la cour, tu peux pas rentrer tout de suite. Et personne ne me dit quoi que ce soit, mais je faisais le tour de la cour de la prison, là. Je marchais tout seul, puis la seule pensée dans ma tête, c'est sûr, c'était à mon meilleur ami Danny, là. Et comme de fait, ce midi-là, ces deux gars-là, ils ont rentré dans la cellule de Danny, chacun avec un moitié de paille d'un ciseau, et ils l'ont poignardé 17 fois. Et là, Sam m'a dit qu'il était pour le faire, et après qu'ils ont attaqué Danny comme ça, ils ont quitté de sa cellule, puis ils ont tout de suite rentré dans le mien. Parce que le linge était tellement rempli de sang. Ils ont enlevé le linge, ils ont caché ça en dessous de mon lit, puis ils ont pris de mon linge pour essayer de sortir sans se faire arrêter. À cause de l'écrit de Danny, ils se sont fait prendre pareil, là. Ils se sont fait mis tout dans le trou. Danny, l'urgence à l'hôpital, il a passé un mois dans un coma. Et moi, je dis, c'est un miracle que ce gars-là, il vivait aujourd'hui, il est. Quand quelque chose comme ça arrivait en prison, tout le monde se faisait embarrer dans leur cellule. Et quand ils m'ont embarré dans le mien, c'était le gars qui vivait entre Danny et moi qui m'a averti. Il a dit, Randy, fais attention, man, ils ont mis de quoi en dessous de ton lit. Et je me suis penché, j'ai sorti deux paires de pantalons, deux chemises, remplies du sang de mon meilleur ami. Et si moi, je voulais pas faire accuser comme complice dans tout ça, il a fallu que je fasse disparaître ce linge-là. Et la seule façon de le faire, embarré dans ma cellule comme ça, j'ai pris un lame de rasoir que j'avais caché, et là, je me suis mis à couper ça en petits morceaux. Et peu par peu, j'enlève ça par la toilette. Faisais attention de ne pas bloquer le toilette. Le gardien passait, je cassais ça, il a passé, je commençais de nouveau. Ça m'a pris un couple d'heures pour finir la job. Et savez-vous, j'oublierai jamais ces couples d'heures-là pour le restant de mes jours. Qu'est-ce qui m'a poussé à trahir non seulement mon meilleur ami, mais mon propre cœur qui voulait bien faire? L'influence sociale négative. En anglais, on appelle ça peer pressure. Si des fois, on veut bien faire, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait même qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, mais des fois, parce qu'on a peur qu'est-ce que les autres vont penser de nous si on ne marche plus comme eux, ou qu'est-ce que notre famille va penser si on s'abandonne au complet à Dieu, des fois, cette influence négative alentour de nous, ça nous éloigne de Dieu. Et parce que l'influence sociale négative, c'est tellement fort en prison. Hein? Pendant 2 semaines, j'ai joué à l'hypocrite avec mon meilleur ami. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. La Bible nous dit clairement ceci. La crainte des hommes tend un piège. Ça veut dire quoi? L'influence sociale négative, c'est un outil de l'ennemi pour essayer de s'éloigner des personnes de la bonté et la volonté de Dieu. Moi, j'ai perdu ma gang d'un seul coup dans cette prison-là. Danny était dans un coma. Les deux autres gars, ils se sont fait prendre pareil à cause de l'écrit de Danny. Ils se sont fait mis tout de suite dans le trou. Et j'avoue, hein, je me sentais tellement mal en dedans de moi pour avoir trahi Danny, là, que c'est là que j'ai commencé à faire quelque chose que j'ai jamais fait avant en prison. S'il faisait pas beau dehors le dimanche, au lieu de rester en cellule, je prenais un café puis là, j'ai commencé à visiter le centre pastoral. Pas beaucoup de gars qui fait ça en dedans. La deuxième fois que j'étais, il y avait un invité spécial. Il y avait un vieux monsieur qui avait passé 25 ans de sa vie en dedans. Et là, il était libéré, puis là, il faisait la tournée des prisons en travaillant avec les aumôniers pour essayer d'encourager les détenus. Et il partageait son témoignage, un peu comme je fais ici même ce soir, là. Il parlait de toutes les gaffes qu'il avait faites, tous les regrets qu'il avait, mais il parlait aussi comment lui a découvert que Dieu était réel et comment ça l'avait vraiment transformé sa vie. Moi, je serais menteur ce soir si je te dirais, je me suis accroché à chaque parole qu'il avait à dire. Mais ce monsieur-là, il a fait quelque chose quand il avait fini de parler, que je crois vraiment que Dieu a servi pour commencer quelque chose en dedans de moi. Il s'est mis à côté de la porte, puis il a pris la peine de donner la main à les quelques gars qui étaient sur place. Et quand il a pris ma main, il l'a retenu pendant quelques instants, puis il m'a juste glissé quelques mots, puis il m'a dit ceci. Qu'est-ce qu'un jeune comme toi fait dans une place comme ici, man? Il dit, c'est vrai qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu devrais m'écouter. Moi, j'ai même pas répondu à ce monsieur-là. Je faisais mon taf. J'ai pris ma main, puis j'ai quitté, puis je me suis retourné en cellule. Lui, il l'a pas vu, mais ses paroles m'ont quand même touché, au point que je me suis retourné en cellule, puis ça brassait un peu en dedans de moi, au point que j'ai pas sorti de ma cellule pour le restant de la journée. Et c'est là, pour la première fois depuis que j'avais quitté mes parents à l'âge de 13 ans, que j'ai pris une vraie période de réflexion. Et je me posais des questions comme, « Randy, qu'est-ce que tu fais avec ta vie, man? Regarde où est-ce que tu es rendu. Où est-ce que tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans, si tu continues comme ça? » Et tellement que ça brassait en dedans de moi, je me suis assis, et là, j'ai écrit un lettre de 4 pages de long à ce monsieur-là. J'ai comme vidé mon cœur sur papier à un étranger en demandant de l'aide. Mais juste pour vous montrer ce soir à quel point qu'il y en a des têtes dures, après que j'ai pris la peine d'être si honnête avec moi-même, et en passant, ça commence là. Hein? Si on peut pas être honnête avec nous-mêmes, on s'en va nulle part dans la vie. Après avoir pris la peine d'être si réel avec moi-même, J'ai lu la lettre une dernière fois avant de la poster. Et en lisant la lettre, je me suis dit à moi-même, nope. Tu peux pas envoyer ça, là. T'as l'air d'un gars mou. Si des fois notre pire ennemi, hein, c'est notre propre orgueil. Au lieu d'envaler mon orgueil et d'admettre que j'avais besoin de l'aide, j'ai pris la lettre, je l'ai déchirée, je l'ai garochée dans la poubelle. La Bible dit ceci, l'orgueil précède la chute. Deux semaines plus tard, dans cette pénitentiaire de sécurité maximum, j'étais en plein milieu d'une autre émeute. Et celui-là, c'était une grosse émeute. Un autre groupe de gars m'ont invité à boire, à prendre la drogue avec eux. Et quand c'est venu temps pour nous embarrer dans nos cellules pour le reste de la soirée, on a décidé qu'on ne retournait pas en cellule. Puis on a commencé à briser des choses. D'autres détenus se sont vite impliqués avec nous. Les gardiens, eux, ils ont vu que c'était pour être une émeute générale. Ils se sont tous évadés du secteur. Les gardiens, ils se sont tous évadés. Ils ont réussi à nous enfermer dans un gros parti de la prison. Ils ont appelé la Sûreté de Québec et la GRC qui ont encerclé la prison pour éviter des évasions. Et à partir de 10 heures le soir jusqu'à 3 heures le matin, on a démoli un parti du Vieux-Penn. Et durant ces heures-là, les policiers et les gardiens, eux, ils passaient leur temps à tirer le gaz par les fenêtres, canisse de gaz après canisse de gaz. Le gaz était tellement épais, là, on se promenait avec des serviettes imbibées dans l'eau sur nos visages qu'on pouvait respirer l'air pur. Vers 3 heures le matin, ils ont décidé, bon, assis là. Et là, ils ont rentré la squad anti-émeute, comme 200 policiers, avec leurs boucliers, puis leur masse de gaz, leur matraque et leur carabine avec des balles en caoutchouc. Et ils ont repris par force le contrôle. Et quand ils ont réussi à maîtriser et enfermer tous les détenus, ils en ont sorti 5 en disant que c'était les leaders. Et moi, j'étais un de les 5. Ma punition, ils m'ont tout de suite transféré à la pénitentiaire la plus haute sécurité au Canada. La journée que j'ai rentré là-dedans, j'étais le plus jeune gars là-dedans. La première fois qu'ils m'ont laissé sortir avec les autres gars, on sortait avec un couple d'heures par jour dans un cours là, qui n'était même pas grand comme la salle ici. Là, c'était un cours en asphalte avec des gros clôtures, un tour avec un gardien, avec un carabine juste pour nous. Et j'ai vu qu'on était à peine une douzaine de gars. C'était des gars qui amenaient de partout au Canada, qui disaient que c'était les plus violents. Première fois, je sors dehors, je vois que non seulement on était à peine une douzaine de gars, il y avait juste une chose qu'on pouvait faire comme sport, comme activité. C'était dans le coin de la cour, ça prenait sur une chaîne, il y avait un gros sac de boxe, comme les boxeurs servent pour s'entraîner. Premier jour, je sors dehors, le gars qui était le plus costaud de la gang, il avait l'air le plus machin, en tout cas, il était là, puis il bouchait après le sac. Deuxième jour, même gars. Troisième jour, même gars. C'est comme chaque fois qu'on allait dehors, les autres gars lui laissaient le sac. C'était lui, ce sac-là. Moi, j'ai toujours été sportif et je voulais m'entraîner. C'est sûr, j'étais pas pour lui dire, toi, tasse-toi, là. Et à un moment donné, j'ai été le voir puis j'ai dit, ça te dérange-tu si je m'entraîne avec toi un peu? Il me garde puis il dit, non, ça me dérange pas. Et là, j'ai commencé à m'entraîner avec ce gars-là. Et peu par peu, j'ai connu son histoire. C'était le plus dangereux de la gang. Premièrement, il faisait une sentence de vie pour meurtre. Mais là, il était rendu dans cette pénitentiaire-là parce qu'il était soupçonné d'avoir tué d'autres détenus dans d'autres prisons au Canada. Je pensais que ce gars-là devenait mon ami. Mais à un moment donné, il a commencé à faire des avances sexuelles sur moi. Moi, j'ai dit, pas intéressé. Et lui, il a pris ça personnel. Il a arrêté de me parler. Paf! Un coup sec. La tension entre lui et moi, là, c'était tellement fort que tout le monde le sentait au point que les autres gars me disaient en arrêt de son dos, Randy, t'es mieux de laisser de la tuer parce que lui, il va te tuer, c'est garanti. Et je vais être honnête ce soir, j'ai rien à cacher. Hein. Même si j'aurais voulu essayer, ce gars-là, il aurait arraché ma tête. Donc, j'avais un méchant gros problème. Et j'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma vie à l'époque. J'ai décidé de ne plus sortir de ma cellule. J'étais pour faire mon temps tout seul dans ma cellule. Je sortais plus dehors. À l'époque, il me restait comme 18 mois sur ma sentence. La seule chose qui gardait mon moral, j'ai continué à faire mes push-ups, mes sit-ups, et je lisais beaucoup. Un jour, comme d'habitude, à tous les jours, À un tel heure, la porte s'ouvre. Comme d'habitude, le gardien était là avec mon cabaret de nourriture. Mais cette journée-là, il y avait une petite boîte d'or à terre. Il rentre la boîte avec son pied, la porte se ferme. Et dans cette boîte-là, il y avait quelques livres. Et parmi ces livres-là, il y avait un drôle de livre. Il y avait une Bible. Moi, j'avais jamais lu ça avant dans ma vie. Mais c'est dans la pénitentiaire la plus haute sécurité au Canada que j'ai commencé à feuilleter là-dedans. Et j'avoue, il y avait des choses que je ne comprenais pas du tout là. Mais il y avait certaines paroles, on dirait, ça parle à moi. Comme exemple, à un moment donné dans la Bible, le Seigneur dit, si tu es fatigué, là, viens me voir. Un autre passage dans la Bible qui m'a beaucoup parlé, c'est, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous rendre libre. Moi, la vraie liberté, au courant de ma jeunesse, la définition a beaucoup changé. Hein. Quand j'étais jeune, oh, si je peux aller joindre mes frères, je vais être libre. Après ça, une date sur un calendrier, je vais être libre. Une journée, je vais sortir de la prison. Et là, j'étais en train de lire une autre définition. Dieu peut nous rendre libre. Un autre passage qui m'a beaucoup parlé lorsque le Seigneur a dit, écoute, je suis la liberté. Et c'est sûr, lorsque le Seigneur a dit, si donc le Fils de Dieu te rend libre, tu seras réellement libre. En lisant ces passages-là et beaucoup d'autres passages, c'est comme ça brassait tellement dedans de moi que là, j'avais une forte impression que, ouais, peut-être je devrais prier. J'avais jamais fait ça avant dans ma vie. Il y avait juste un problème. Et c'était mon orgueil. Parce qu'à l'époque, même si je le sentais que je devais prier, à l'époque, ma concept de la prière, c'est qu'il a fallu que je me mette à genoux pour prier. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas besoin d'être à genoux, mais à l'époque, c'était ma concept. Mais tellement que c'était haute sécurité, on n'avait pas de plafond dans nos cellules. Nos plafonds, c'était du vite épais, épais, épais. Un gardien, toutes les 10-15 minutes avec un carabine, il passait par-dessus, tu pouvais rien faire sans être vu. Et moi, j'étais trop orgueilleux. Je voulais pas qu'un gardien me voie à genoux. Mais tout en lisant, on dirait que ça brassait tellement fort dans moi qu'à un moment donné, je me suis décidé, non, je veux la faire. C'est ça la vie, hein? C'est des choix. Et je suis pas fier comment je l'ai faite parce qu'honnêtement, là, au début, j'ai comme calculé mon coût. J'attendais qu'il passe, je savais que j'avais à peu près 10 minutes. J'ai pris la Bible, je l'ai mis sur mon lit et je me suis mis à genoux à côté de mon lit. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé sincèrement à Dieu. Et j'ai dit quelque chose bien simple. Hein? J'ai dit, Seigneur, non, j'ai pas dit Seigneur, j'ai dit, je ne sais même pas si tu es réel. Mais j'ai dit, l'autre monsieur dans l'autre prison, il m'en a parlé de toi. Je suis en train de lire ici que tu peux m'aider. J'ai dit, j'ai ruiné ma vie et j'ai besoin de l'aide. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? A complètement changé ma vie. Je n'ai pas vu quelqu'un, mais tout en priant, soudainement, j'ai senti une présence incroyable qui a rentré dans ma cellule. Et c'était une présence qui était tellement puissant et doux en même temps que quelque chose a brisé en dedans de moi. Et là, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Et je t'ai rendu à terre dans la prison la plus haute sécurité au Canada en train de pleurer comme un bébé. Et sais-tu quoi? Cette expérience-là était tellement réelle pour moi que quand j'avais fini, ça avait duré tellement longtemps que le gardien, lui, a eu assez de temps pour passer à plusieurs reprises puis m'a vu en train de pleurer comme un bébé. Mais savez-vous quoi? Ça me dérangeait pas du tout. Pourquoi? Parce que dans la prison la plus haute sécurité au Canada, je me suis découvert pour moi-même que Dieu est réel. Quelqu'un a déjà dit ceci. La distance la plus longue au monde, c'est de là à là. Et quelque chose a cliqué là, cette journée-là, pour moi. Et c'était pour moi le début d'une nouvelle vie pour moi. ça a commencé. Comment est-ce que tu prouves que ça, c'est vrai, Dieu est réel? Regarde, les choses spirituelles, ce sont les choses les plus difficiles à prouver. C'est pour ça, même dans la Bible, ça se dit, il faut que tu goûtes et que tu vois pour toi-même que Dieu est bon. Mais ça a commencé pour moi la journée que j'étais ouvert. J'étais prêt à ouvrir mon cœur à Dieu. Et le livre qui m'a beaucoup aidé et qui est devenu mon livre préféré aujourd'hui, c'est la Bible. Et je veux terminer le témoignage ce soir en partageant juste quelques derniers passages avant qu'on va prendre un mot de prière. Premièrement, c'est écrit ceci. Et Alex, si ça ne te dérange pas, je vais vous inviter de venir en avant. La Bible nous dit ceci. Facile est le chemin qui mène à la ruine. Et nombreux sont ceux qui l'utilisent. C'est facile d'être rebelle. C'est facile de marcher sur le chemin de la rébellion. Ça coûte cher, mais c'est facile. Parce qu'on peut facilement ignorer notre conscience. On peut facilement écouter notre entourage au lieu de notre cœur ou au lieu d'écouter Dieu. C'est facile d'être rebelle. Regarde qu'est-ce qui est écrit. C'est un chemin qui mène à la ruine. Quelqu'un a déjà dit ceci. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a au bout, demande à ceux qui sont de retour. Et si moi je partage mon histoire dans les écoles ou dans les églises, là, c'est pas parce que je suis fier de mon passé, c'est tout à fait le contraire même. C'est parce que depuis plusieurs années maintenant, j'ai juste une chose à cœur. Et ça, c'est d'aider, même si j'ai juste une personne, de débarquer de ce chemin-là avant que c'est trop tard. Marcher sens contraire à Dieu, ça vaut vraiment pas la peine. C'est écrit ceci dans la Bible. On a parlé de la rébellion. Un mulet, c'est un rebelle, hein? Ne sois pas aussi stupide que le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mort et un bride. C'est l'affaire du métal qu'on met dans leur bouche pour le retenir. Tant qu'on ignore certains principes de base dans la parole de Dieu, certaines vérités universelles même, c'est comme on donne le pouvoir de nos vies à d'autres forces, puis c'est eux autres qui vont nous gérer. C'est jamais, jamais plaisant. Mais si je peux terminer avec un dernier verset, qui pour moi est probablement mon verset favori, parce que je l'ai vécu par expérience et je continue de le vivre par expérience, et ceci. L'apôtre Pierre a dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si on est trop orgueilleux pour admettre notre besoin spirituel, Dieu peut rien faire dans notre vie. Mais si on peut juste venir au point qu'on est assez humble pour reconnaître notre besoin spirituel, c'est incroyable à quel point que Dieu puisse commencer à agir dans notre vie d'une façon puissante. Est-ce que je peux vous inviter, juste en terminant, de courber les têtes et fermer les yeux ici ce soir? Et on va terminer avec juste un petit mot de prière. Et peut-être, pendant la prière, je vais vous poser quelques questions. Et je vais vous inviter. J'étais transparent, ouvert avec vous. Je vais vous inviter d'être avec moi ce soir. Et Seigneur, je prie juste pendant que nos têtes sont courbées et nos yeux sont fermés, que tu puisses vraiment agir par ton Esprit Saint. Et tu puisses vraiment nous aider, Seigneur, à être en aide devant toi, Seigneur. Non devant les uns et les autres, mais vraiment devant toi. Et pendant que nos têtes sont courbées et nos yeux sont fermés, je vais vous demander tout simplement, peut-être vous êtes ici ce soir et si tu seras honnête avec vous-même, il faudra t'admettre que Dieu ne fait pas partie de ta vie. Mais ce soir, Dieu te parle un peu. Vous savez, hein, la Bible nous dit ceci. Si aujourd'hui vous entendez son voix, n'endurcez pas votre cœur. Et moi, je veux terminer juste avec un mot de prière. Mais si vous êtes ici ce soir, il faut que tu admettes que Dieu ne fait pas partie de ta vie, mais tu aimerais ça ouvrir ton cœur à lui. Je vais vous demander tout simplement de prendre un pas de foi, juste enlever la main en disant, « Randy, c'est moi ça, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Priez pour moi à la fin. » Il y en a-tu quelques-uns ici dans la salle? Je sais que c'est pas facile des fois, hein? Parce que le combat, c'est à l'intérieur. Et sûrement comme l'ennemi de notre âme, il est prêt à dire, fais-le pas, lève pas ta main. Dieu est en train de te parler. Et si c'est toi, tu as besoin de Dieu et tu reconnais ton besoin spirituel ce soir, je vous invite tout simplement de lever la main ici. Je vais attendre juste quelques instants, parce que je sais des fois c'est pas évident le combat à l'intérieur. Y a-tu quelqu'un? Vous savez, hein, peut-être ce soir vous êtes, vous pouvez souvenir la fois que tu t'es donné au Seigneur. Peut-être c'est quelqu'un qui vient à l'église à tous les dimanches. Mais savez-vous, la rébellion, c'est pas juste pour ceux qui sont non chrétiens. Des fois, on est rebelle même qu'on est chrétien. Et Dieu est en train de te dire ce soir, tu te trouves de nouveau sur le chemin de la rébellion et je veux que tu retournes ce soir. Moi, j'aimerais terminer juste en priant pour quelques-uns ici. En levant la main en disant, Randy, c'est moi, prie pour moi. J'ai besoin de débarquer de ce chemin-là avant que c'est trop tard. Il y en a-t-il quelques-uns dans la salle? Seigneur, merci. Merci pour tous et chacun qui se sont déplacés ce soir pour venir entendre ta parole. Seigneur, on sait que l'ennemi rôde, on sait que ta grâce abonde. Mais on sait, Seigneur, que la course de la vie, c'est pas évident des fois. Donc ce soir, on veut se consacrer de nouveau à toi, Seigneur Dieu. On veut te demander, Seigneur, de nous aider, de marcher avec toi, d'écouter ton Esprit Saint, d'écouter notre conscience quand tu nous parles en travers de la voix de la conscience, Seigneur. Seigneur, on prie que tu puisses vraiment nous aider d'être fidèle à toi, peu importe qu'est-ce que ceux en tout de nous disent, Seigneur. Seigneur, des fois, on a une certaine réputation qu'on veut protéger, mais Seigneur, ce soir, on veut tout abandonner à toi, Seigneur. Et on veut vraiment te suivre. Merci pour tous et chacun qui sont ici. Et je sais que, Seigneur, ta parole nous dit que la parole, des fois, est semée et l'ennemi vient pour essayer de voler la semence. Donc, je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses vraiment protéger et arroser ta parole dans les jours à venir, Seigneur Dieu. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont déplacés. Merci pour cette église, Seigneur. Et je prie que dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, Seigneur, que cette église puisse continuer à être une lumière, Seigneur. Une lumière pour ceux qui sont dans cette communauté, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Surtout, Seigneur, merci pour ton salut. Merci, Seigneur, pour la journée que tu m'as sauvé. Et Seigneur, je prie que tu puisses continuer à nous aider à vraiment partager cette lumière que tu as mis en dedans de nous, Seigneur, afin que d'autres puissent voir et puissent croire en toi. Toi qui es la lumière de la vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous garde, mes amis, et que Dieu vous bénisse aussi.